Face à la folie, de toutes les façons, il y a des comportements et des attitudes qui sont universels, je dirais, comme la peur ou du fou, le fait que ça nous renvoie à notre propre folie intérieure, comme l'a dit Daniel Lemaire dans le jeu. Et puis, le fait que le fou est souvent celui qui amuse aussi, qui va amuser les rois, etc. À titre de petite anecdote tout à fait agréable pour moi, j'ai eu le plaisir de visiter le musée historique de Strasbourg. Et il y a toute une partie concernant les fous, hein, avec un documentaire et en dialogue avec les fous, qui montre justement les brelots qu'ils portaient sur leur béret, etc. Donc c'est vraiment, ça montrait encore une fois cet aspect universel de l'amusement que peut provoquer le fou, de la distraction en fait du pantin, en quelque sorte, qui est là pour amuser. Mais ce qui va peut-être distinguer, je dis bien peut-être, parce que je pense que c'est peut-être aussi commun à toutes les religions, hein, en tous les cas aux religions monothéistes, c'est que dans les sociétés de culture musulmane, il y a une véritable ambivalence vis-à-vis du fou et de la folie, le fou étant en même temps, pouvant être perçu en même temps comme un saint, et ça y est, hein, et comme un démon, comme quelqu'un qui est possédé par les mauvais esprits. Et cela s'intègre dans une vision globale et dans un vécu global face à la maladie d'une manière générale, dans les sociétés qui sont croyantes et pratiquantes, dans la mesure où on va considérer que la maladie, eh bien, c'est la volonté de Dieu. On va chercher toujours une cause qui est extérieure et non pas une cause intérieure. Bon, ce double regard sur les fous dans les sociétés musulmanes va amener un certain nombre de pratiques qui, bien entendu, ont leurs aspects positifs et leurs aspects négatifs. Parmi les aspects positifs, c'est que quand on le considère que ce soit comme un saint ou comme un possédé, il y a quand même un courant de solidarité autour de ce fou et autour de l'environnement immédiat de cette personne qui est malade, ce qui fait que ça devient l'affaire, pas seulement de la petite famille, mais l'affaire de la communauté. Il y a cet aspect qui est positif. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est qu'il y a d'autres formes de mise en asile, d'incarcération en quelque sorte, dans différents mausolées, hein, et qui, finalement, dans lesquels il y a des rituels dits d'inspiration religieuse, et dits ayant des vertus thérapeutiques, et on peut se trouver dans des situations tout à fait similaires à ce qui s'est passé des décennies auparavant en Occident. Bon. Mais cela n'a pas toujours existé de cette façon-là. Je voudrais simplement citer un exemple. C'est qu'au XIIIe siècle, dans la ville de Fès, où je suis née, la ville de Fès au Maroc, par exemple, il y avait un maristan, ça s'appelait comme ça, qui était en fait une maison où on accueillait les personnes atteintes de maladies mentales et où on les soignait par de la musique. Hein. Donc il y avait de la musicothérapie carrément qui avait pris naissance dans ce maristan. Malheureusement, il y a eu un incendie qui l'a détruit. Il y a maintenant tout un projet de réhabilitation et de remise de ce maristan sous forme de musée, en quelque sorte. Mais c'est pour dire, au final, pour conclure avec la chose suivante, c'est que, évidemment, tout ça persiste, ne serait-ce que dans la culture, ne serait-ce que dans les premières approches que va avoir le musulman ou la personne qui est de culture musulmane, je dis bien de culture musulmane, face à la folie et face au fou. Mais à côté de cela, la mondialisation est là. 1952 est passé aussi dans ces pays. Les neuroleptiques sont fort heureusement arrivés dans ces pays. Donc on se trouve dans une situation où il y a une coexistence d'une sorte de prise en charge traditionnelle, pour ne pas l'appeler médecine traditionnelle, une sorte de prise en charge traditionnelle par les trans, par les incantations, par la lecture du Coran, par un certain nombre de rituels, et puis bien entendu, chimiothérapie, c'est-à-dire quand le patient a accès à l'hôpital psychiatrique, le fait qu'il soit mis sous traitement, comme ça se passe ici. Et cela crée des situations de tension qui ne sont pas toujours faciles à gérer, ni faciles à manager. Et je pense que c'est ça sur lequel je reviendrai quand on parlera justement de société pluriculturelle, c'est tous ces aspects-là qui peut-être devrait être pris en considération quand on prend en charge un patient qui est d'origine de ces cultures différentes.
Considérer que les facteurs ou les causes sont extérieurs à soi, divins ou autres, est-ce que ça ne peut pas conduire aussi à avoir l'autre effet de retarder le diagnostic, le traitement?
C'est évident.
Et puis la famille, je crois que toutes les sociétés aussi aujourd'hui sont touchées plus ou moins mondialisation. Est-ce que la famille aujourd'hui peut encore répondre à ça, à porter cette personne telle que vous la décrivez, à l'entourer? Est-ce qu'elle peut encore le faire?
notion de Mejdoub. Mejdoub, c'est celui qui, à la limite, qui a quelque chose, de, un don particulier, oui. À la limite, et qui rejoint un petit peu cette perception qui est universelle, de mon point de vue, de considérer que le fou, c'est celui qui va dire un certain nombre de vérités, d'une façon légère, que d'autres pensent, mais qu'ils n'osent pas dire. En arabe, il y a carrément une expression très populaire qu'on peut entendre tous les jours, qui dit, au Maroc en tous les cas, qui dit « ne dit la vérité que le fou ou l'enfant ». Il n'y a que le fou et l'enfant qui vont dire la vérité. Donc il est évident que cet aspect-là est quelque chose que l'on va trouver un petit peu partout. Bien entendu, cela amène aussi des retards diagnostiques, indiscutablement. Des retards diagnostiques qui ne sont pas dus seulement à la culture. Attention, il ne faut pas tout mettre sur le dos de la culture. C'est aussi des retards diagnostiques qui sont dus à la non-accessibilité des structures de santé et de soins qui soient adaptées à ce genre de patients, d'une part. D'autre part, ce que vous dites est absolument vrai, c'est-à-dire que la nucléarisation des familles est une réalité. Au Maroc, on est passé d'une moyenne de 6,5 enfants par femme dans les années 60 à 2,10 au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des moyennes, dans des taux de fécondité qui sont très similaires à ce qui existe en Occident. Et de ce fait, forcément, la famille s'est rétrécie, et donc la solidarité familiale prend un coup. Alors, ça va même au-delà de cela. C'est que, je pense que les spécialistes ou ceux qui suivent ce qui se passe le savent, en 2015, il y a eu un vrai scandale, et fort heureusement qu'il a fini. Il y avait depuis des années un vrai scandale, et ça a fini par être résolu. C'est un asile, Bouya Omar, qui est dans le sud du Maroc, dans lequel il y avait des centaines de personnes qui étaient enfermées, enchaînées, et parfois depuis plus de 10 ans, 15 ans. D'accord ? Et bon, la psychiatrie et la maladie, et la santé mentale ayant été déclarée comme une priorité dans les programmes de santé publique, il y a eu une étude qui a été faite pour voir les prévalences des maladies mentales, etc., et qui a fait qu'obligatoirement, on ne pouvait plus fermer les yeux sur ce qui se passait dans cet asile. D'accord ? Bon, qui est au sein, c'est à l'intérieur, d'un mausolée. Donc, il y a l'aspect religieux qui est encore là. Il y a l'aspect que c'est un saint qui est enterré là-dedans, et que le pouvoir du saint va aider à guérir ses patients. Au bout du compte, cet asile a été fermé, et nous nous retrouvons aujourd'hui face à la situation où les familles se plaignent parce qu'il n'y a pas suffisamment de structures publiques pour prendre en charge ces patients qui étaient là-dedans, et les familles n'ont plus la possibilité de les prendre en charge non plus. Donc c'est pour cela que j'insistais sur le fait que ça fait aussi partie de l'histoire de la psychiatrie et du vécu de la maladie mentale et de la perception de la maladie mentale, en particulier dans les pays dit en voie de développement, dans lesquels on va avoir une coexistence de l'ancien et du présent. On a une coexistence de maladies infectieuses et des maladies de surcharge et du cancer, etc., etc. Et bien c'est pareil, on a une coexistence de ces croyances et de ces pratiques qui sont faites pas seulement, encore une fois je le répète, à cause des croyances, mais parfois faute de pouvoir faire autrement. Alors sur la